RCF.
Un barbecue sur la plage au petit matin. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus se fait le cuisinier et l'hôte de ses amis disciples partis à la pêche. La petite troupe originaire de Galilée est revenue au pays après les événements dramatiques qui ont secoué Jérusalem et la crucifixion de leur maître. Pierre, Jacques, Jean, ceux qui les premiers avaient tout plaqué pour suivre le rabbi de Nazareth, ont le cœur lourd en ressortant leur bateau. Et c'est pourtant à ce moment précis que le ressuscité va se manifester à eux. Pour commenter ce passage, je reçois Arnaud Alibert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prêtre assomptionniste, aumônier des étudiants à l'Université catholique de Lyon. Nous écoutons l'évangile de Jean, chapitre 21, versets 1 à 19.
Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez ». Ils jetèrent donc le filet et cette fois-ci, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors « Venez manger ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre « « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait « M'aimes-tu ? » Il lui répond « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit « Suis-moi ».
Arnaud Alibert, voici une très longue séquence avec pas mal d'actions. La scène se déroule après la résurrection. Alors, il y a eu déjà des manifestations à Jérusalem. Et puis là, on se trouve en Galilée. C'est la terre des hommes qui ont suivi Jésus.
On est en Galilée, où là, donc, on n'est plus à Jérusalem. On n'est plus dans le lieu des apparitions, enfin, du tombeau vide. On n'est plus dans la ville où Jésus a été crucifié. On est dans cette terre ordinaire, la terre du grand ministère du Christ. Voilà, on est à la maison. Et à la maison, autour du lac, Jésus ressuscité se manifeste.
Quel est l'état d'esprit des disciples? On voit Pierre qui dit « je m'en vais à la pêche ». On peut peut-être imaginer que bon, ils se disent « retour à la case zéro ».
Oui, je l'ai longtemps pensé. J'avoue que j'ai un petit peu quelques doutes là-dessus. Ils retournent en Galilée parce qu'il faut bien vivre en fait. Ils retournent à leur barque. D'ailleurs, je pense que pendant le ministère de Jésus, ils n'ont jamais vraiment quitté. Ils ont suivi Jésus par séquence, je pense. Mais je pense quand même qu'ils ont le cœur lourd parce que c'est pas simplement la perte d'un ami. C'est tout ce qu'ils ont vécu, tout ce que la présence de cet ami avait suscité en eux comme espérance, comme foi, qui se trouve un peu plombé. Et peut-être aussi qu'ils ne savent pas que faire de cette révélation, de cette résurrection, en disant, voilà, il nous est apparu ressuscité, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Alors, ils partent pêcher, ils ne pêchent rien pendant la nuit, échec. Et puis au lever du jour, Jésus se tient sur le rivage, mais les disciples ne savent pas que c'est lui. Donc on voit l'ami sans le reconnaître.
Alors ça, c'est assez classique pour une apparition. Je n'ai pas souvenir d'une seule apparition qui ne commence pas par une non-reconnaissance. On croit voir, en fait, on ne voit pas. Et puis les yeux du cœur, les yeux de l'esprit, les yeux de la foi s'ouvrent. Et enfin, on reconnaît. Donc là, on a bien cette séquence d'un Jésus qui leur parle. Il est sur la rive. Eux, ils écoutent. Ils vont jeter les filets, même s'ils ont pêché toute la nuit et qu'ils n'ont rien trouvé. Et c'est après que Jésus se fait reconnaître. En fait, c'est cet événement-là qui fait basculer l'identité de cet inconnu en Jésus-Christ ressuscité.
Jésus dit aux disciples qui sont revenus bredouilles de la pêche, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Les enfants, c'est un terme assez affectueux. Comment vous l'entendez, vous ?
Je pense que là, il y a aussi, on retrouve la plume de Jean, parce que dans les lettres de Jean, il écrit mes bien-aimés, mes enfants, ou parfois même mes petits-enfants. Donc là, on a manifestement l'écrivain sacré qui est plein de tendresse.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la pédagogie de Jésus passe par la question. Hein. Il n'est pas direct. Est-ce que vous auriez quelque chose à manger, alors qu'il prépare lui-même à manger?
Oui, comme quand il guérit l'aveugle, il dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» comme au guéri. Là, on va y revenir, parce qu'il y a un écho à la piscine de Bethesda. Il lui dit « Veux-tu guérir ?» Évidemment qu'il est là depuis des années et des années. On peut tout porte à croire que celui qui est sur son grabat veut guérir. Et Jésus commence par lui dire « Veux-tu guérir ?» Mais là, avez-vous quelque chose à manger ? Voilà, c'est une question en fait qui met en relation.
RCF. Enfin une bonne nouvelle.
Arnaud Alibert, nous regardons avec vous l'évangile de ce dimanche en Jean, chapitre 21, versets 1 à 19. Les disciples ont vu un homme sur le rivage. La discussion a démarré entre eux. Et puis, il y a une instruction de cet homme qui dit « Jetez vos filets à droite et puis vous trouverez des poissons ».
Moi, ce que j'aime remarquer dans ce texte, c'est qu'on a il y a deux types de poissons. Il y a les poissons sortis de l'eau par les disciples et il y a les poissons qui sont déjà sur la grève, déjà sur le grill, parce que quand ils débarquent, il y avait déjà du poisson et du pain. Donc le fait qu'il y ait ces deux catégories de poissons, c'est là où je fais écho à ce que je disais tout à l'heure de la guérison à la piscine de Bethesda.
Pourquoi?
Je rappelle rapidement l'épisode. On a un homme qui est au bord de la piscine de Bethesda, qui se trouve à la porte des brebis. Et pour être guéri dans cette piscine, il faut être plongé dans l'eau et en ressortir guéri. Or, l'homme va être guéri par Jésus sans être plongé dans l'eau. Donc, on a une guérison sans être plongé dans l'eau. Comme là, sur la grève, on a un poisson qui va être mangé, qui a été préparé, cuit, qui ne sort pas de l'eau. C'est-à-dire, c'est un don gratuit de Jésus. Et qu'est-ce qui m'a fait me souvenir, faire le pont, je vous dis en fait mon expérience de lecteur, c'était la troisième fois que Jésus apparaissait. Or, cette guérison du paralysé à Bethesda, c'est le troisième signe de Jésus dans l'évangile de Jean. Donc c'est sur ce troisième que j'ai tilté et je me suis aperçu qu'il y avait un miracle ou un don du Christ qui était fait en dehors de la sortie ordinaire de l'eau. Et je rajoute à ça que sur le brasier, il y a du pain dont il n'est pas fait mention avant. Donc Jésus donne le pain. Donc on est sur un récit où le Christ ressuscité est là en forme de don. Il se donne. Et c'est cette avalanche, si j'ose dire, de don du Christ qui va dessiner une époque nouvelle et plus rien ne sera comme avant.
Arnaud Alibert, il faut peut-être préciser que l'évangile de Jean raconte un certain nombre de miracles. Alors on parle de miracles, mais il faut plutôt parler de signes. Oui. Donc ça a été écrit 70 ans après la résurrection du Christ. Mmh. On est là dans de l'allégorique pour raconter l'abondance du ressuscité vis-à-vis des hommes.
Et puis surtout pour rendre compte du changement de vie. Enfin, ce sont des, comme dirait le capitaine Haddock, ce sont des marins d'eau douce, en fait. Ils sont pêcheurs sur le petit lac de Galilée. Moi, j'y suis allé avec les étudiants récemment. Il est très beau ce lac, on est ému quand on est dessus, mais c'est un petit lac. Or, ce sont ces gens-là qui vont annoncer l'évangile du Christ à toute la terre. Il faut bien rendre compte de ce passage, comment c'est possible. Et là, l'évangile nous le montre par petites touches. Voilà. Je pense que c'est ça l'œuvre qui est signifiée par ce texte.
Devant l'abondance de la pêche, l'évangéliste Jean nous précise un passage un peu énigmatique, puisque le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Comment expliquer que Pierre est nu sur ce bateau quand il pêche, et puis quand il se rend compte que c'est le Seigneur, il se jette à l'eau ?
Je pense qu'il se jette à l'eau pour aller le rejoindre.
Pourquoi il passe un vêtement ? Pourquoi était-il nu ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on pêchait nu. On peut penser que c'est pour ne pas trop mouiller les vêtements. Et puis je pense que la nudité des corps...
Et vous ne le voyez pas, vous, comme une petite énigme ou quelque chose qui... Si on marque ce détail, c'est quand même étrange.
Je ne sais pas. Moi, j'aurais fait pareil. Et puis dans ces pays-là, ça sèche vite, j'imagine. Oui, évidemment, c'est un peu intriguant de se jeter à l'eau, de s'habiller pour se jeter à l'eau. Mais vu l'empressement, le désir ardent de rejoindre Jésus, voilà, ça m'amuse. Mais pas plus que ça, ça m'interroge pas plus que ça.
Arnaud Alibert, nous continuons à regarder avec vous l'évangile de ce dimanche, en Jean chapitre 21, versets 1 à 19. Donc la scène se passe en Galilée, au bord du lac. Donc l'équipage ramène à terre un filet plein de poissons. Et là, comme vous le disiez, il y a déjà du poisson sur le brasier qu'a préparé Jésus. Donc il appelle Jésus, les disciples, à venir manger. Effectivement, il y a du pain. Et donc, ils vont là le retrouver dans une dimension qu'ils ont déjà connue lors d'un repas, le repas de la scène, on peut dire ça ?
Voilà, le mot symbole, qu'est-ce qu'il signifie ? Symbolein, c'est donc couper avec. Un symbole, c'est quelque chose qui fait référence à deux morceaux, on va dire, qui ont été coupés et qui sont rassemblés pour que le sens apparaisse. Là, il faut faire la jonction entre Jésus avant sa mort et sa résurrection et le ressuscité. Donc, quels sont les éléments qui nous sont donnés dans le texte ? Il y a le pain, incontestablement. C'est-à-dire ce pain sur la plage fait référence au pain du dernier repas qui, je le rappelle, n'est pas donné dans l'évangile de Jean, puisque au chapitre 13, on a le lavement des pieds. Mais on a au chapitre 6 de l'évangile de Jean le fameux discours du pain de vie qui montre bien que dans toute l'école joannique, dans toute la tradition de Saint Jean, l'attribution de Jésus pain du ciel est complètement présente. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on a un pain qui est donné par Jésus, comme il a été donné auparavant. On a du poisson qui est donné ici par Jésus et qui fait écho au poisson que les disciples sont en train d'amener. Donc il y a une commune humanité. Jésus vient les reprendre en disant « Voilà, on a du poisson chacun, mais moi je vous donne du pain. »
Le Christ, Dieu, s'intéresse au travail de l'homme puisqu'il demande le fruit de la pêche.
C'est ce que je pense, c'est-à-dire que quand je lis ce texte, je vois les 153 poissons, ce sont les 153 nations. Le fait que Jésus, qui est du poisson, qui est le fruit de la pêche des hommes, je vois en fait que Dieu veut établir son règne nouveau à partir d'éléments humains, enfin du monde tel qu'il est. C'est-à-dire, ce sont des éléments, on va dire mondains, mais sans le côté péjoratif du mot mondain, c'est-à-dire qu'on a la vie des hommes réels, donc des nations, 153, du poisson, parce qu'on est pêcheur, et Jésus qui apporte un poisson qui n'est pas sorti de l'eau, et du pain qui est sorti de nulle part, qui est le pain de Dieu. Et donc, c'est une invitation pour nous à prendre notre vie telle qu'elle est, et à dire, mais cette vie, elle peut être complètement dépassée en présence du Christ ressuscité et devenir autre chose. Je pense que c'est vraiment un récit qui nous appelle à une conversion du cœur, à l'accueil de la bonne nouvelle, et comme je le dis, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ouvre à une nouvelle vocation profonde.
Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Saltner.
Arnaud Alibert, il y a le premier acte de la pêche et de la rencontre avec Jésus sur la grève, hein, avec le repas partagé dans cet évangile. Et puis il y a un deuxième acte avec deux protagonistes, c'est Jésus et Pierre. Puisque quand ils ont mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Et il va lui demander trois fois. Comment comprendre ce passage ?
Premier élément de réponse à votre question qui est vraiment immense, évidemment, mais c'est d'abord repérer que dans tout ce texte, Pierre a le leadership. Voilà. Alors que quelques lignes auparavant, il n'a vraiment pas le beau rôle, hein, puisqu'il a renié
Christ. Il a renié Jésus.
Voilà. Là, il a le leadership. On l'avait déjà vu rentrer dans le tombeau alors que Jean, enfin le disciple que Jésus aimait,
était arrivé le premier,
mais n'était pas rentré. Lui, Pierre d'autorité, il rentre. OK. Mais là, il a clairement le leadership. Pourquoi ? Il dit « Je vais pêcher, tous le suivent ». Ensuite, le disciple que Jésus aimait dit « C'est le Seigneur, il est le premier à se jeter à l'eau ». Il ne calcule pas, il s'habille, il se jette à l'eau. Jésus arrive et dit « Amenez-moi les poissons ». C'est qui va chercher les 153 poissons ? C'est Pierre. Les autres les ont ramenés sur la grève, mais il va chercher, pour répondre à l'injonction de Jésus, « Amenez-moi les poissons ». Là, Jésus lui dit « Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ? » C'est presque un peu gênant, parce qu'on ne peut pas imaginer que la scène, ce soit un petit dialogue en aparté de Jésus. Moi, je vois plutôt un Jésus qui parle devant les autres et qui dit à Pierre, « M'aimes-tu plus que ceci ?» Et puis, à la fin de cet épisode, Jésus qui signifiera déjà le martyr de Pierre. Donc, on a un texte qui établit le leadership, comme on dit aujourd'hui, ou la primauté, comme on dit en théologie, de Pierre.
Mais alors moi, j'ai découvert que dans le même « tu », dans la traduction grecque, ça n'est pas le même « amour » dont parle Jésus.
Eh oui. Alors, si on était anglais, on ferait la différence entre « to love » et « to like », c'est-à-dire « m'aimes-tu » d'amour.
Jésus lui demande « m'aimes-tu d'amour ».
Voilà, « m'aimes-tu d'amour ». Et la traduction liturgique nous dit « m'aimes-tu vraiment ». Et Pierre répond « oui, je t'aime ». Qui serait pas love mais like, c'est-à-dire en grec c'est le philein, c'est comme on dit quelqu'un qui est cinéphile, il aime le cinéma, mais on voit bien que le cinéma on l'aime pas d'un amour charnel ou un amour à se marier avec le cinéma, on est cinéphile.
Et lui il répond comme ça, Pierre.
Voilà, il répond je t'aime d'amitié, c'est traditionnellement ce qu'on dit. Donc moi on m'a bien expliqué dans mes études que Jésus lui dit m'aimes-tu d'amour, Pierre répond je t'aime d'amitié. Deux fois, m'aimes-tu d'amour, je t'aime d'amitié. Et la troisième fois, Jésus, un petit peu désolé, dit m'aimes-tu d'amitié, parce qu'il va prendre le verbe de Pierre, qui est un verbe philo et plus agapé. Et Pierre lui dit, mais tu sais tout, tu sais que je t'aime, donc philo, je suis ton ami. Seulement, il y a un détail moi, qui me fait penser que c'est peut-être pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que quand on dit ça, on a l'impression que Jésus fait une leçon à Pierre en disant « Est-ce que tu m'aimes d'amour ?» Et Pierre, ben non, il n'arrive pas à aimer d'amour, quoi. Et Jésus, à la fin, dit « Bon, ben, puisque tu ne m'aimes pas d'amour, on va en rester à l'amitié entre nous. » Je trouve ça très négatif. Alors je me suis dit « Mais comment on pourrait rendre compte, mais avec justesse, en essayant d'être fidèle au texte, à ce qui a pu se passer entre Pierre et Jésus ?» Il faut se rappeler que dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean, Jésus va dire trois fois « Aimez-vous les uns les autres d'amour. » Donc, le Père a de l'amour pour moi, verset 9 dans le chapitre 15. Moi, j'ai de l'amour pour vous.
Donc, aimez-vous.
Aimez-vous. Si vous respectez mes commandements, vous demeurez dans l'amour. C'est vraiment l'amour, le love, si vous voulez. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer, agapé, de vous aimer les uns les autres.
Donc love.
Il n'y a pas de plus grand amour, love, pas de plus grand agapé que de donner sa vie. Et juste après, comme une conséquence de tout ça, Jésus dit, vous serez mes amis si vous respectez mes commandements et je vous appelle mes amis. Donc on peut très bien penser que Pierre, qui entend cette injonction de Jésus, m'aimes-tu ? Est-ce que je fais partie des uns des autres dans le m'aimes-tu ? Puisque aimez-vous les uns les autres. Et Pierre, que j'aime infiniment, alors peut-être que je lui passe tout, qui dit, mais oui, mais Jésus, mais j'ai bien appris ma leçon d'une certaine manière, pardonnez-moi de théâtraliser, mais oui, et je suis ton ami. Et tu peux m'appeler ami. Et donc, on n'aurait pas ce même tu amour, ah ben oui, je ne peux que t'aimer d'amitié, qui serait une dénivellation, ce qu'on dit souvent dans les commentaires, mais au contraire, un Pierre qui dirait, Jésus, j'ai enfin compris ce que tu as voulu nous dire. Tu me demandes, m'aimes-tu ? Et je te réponds, je suis ton ami. Et ça scelle l'amour demeure en vous. Ça scelle l'alliance entre Jésus et Pierre.
Arnaud Alibert, en quoi ce récit à la fois de la pêche surabondante après la résurrection et aussi l'institution de Pierre comme le berger du troupeau, en quoi cet évangile il nous rejoint aujourd'hui et il est une bonne nouvelle pour nous ?
Parce que c'est un évangile de vocation. Parce que après cette séquence de m'aimes-tu, Jésus dit, non pas sois le berger, ce qui est la traduction, mais paix, c'est-à-dire berge, occupe-toi, c'est un verbe qui est employé, occupe-toi de mes agneaux d'abord et de mes brebis ensuite. Parce qu'on est sur un moment où Jésus n'a pas dit « je suis Jésus ». Les disciples n'ont pas dit « Jésus, c'est bien toi ». Donc, on est censé ne pas connaître l'identité de ce personnage, sauf que le texte dit « tout le monde savait que c'était lui ». Et pour révéler qui il est, il dit « m'aimes-tu ?» Et Pierre qui répond pour dire qu'il a bien capté que c'était lui Jésus, que ce n'était pas quelqu'un d'autre, il ne lui répond pas « je t'aime » avec le même verbe, il lui répond « philo, je suis ton ami » pour dire « tu es bien celui qui a dit ça avant de mourir », ce que je disais à l'instant. Donc, c'est dans la déclaration amoureuse du disciple et de son maître qu'on comprend que c'est bien le Christ ressuscité. Donc, Jésus dit « je suis celui qui aime ». Et je suis celui qui appelle à aimer. C'est-à-dire que comme on a Moïse qui, dans le buisson ardent, entend Dieu qui dit « je suis celui qui est », là, on a « je suis celui qui aime ». Et ce « je suis celui qui aime », qui est aussi Dieu, qui est celui qui est, c'est ce que Dieu veut. Et c'est pour ça que Jésus va dire « et toi, tu vas t'occuper de mes brebis », c'est-à-dire tu vas les aimer.
Mais qu'est-ce que ça nous dit à nous ?
Ça continue à nous dire. Je vous ai donné un exemple de ce qu'il faut faire. Donc, aimez-vous les uns les autres. Prenez soin les uns des autres dans l'amour. Construisez l'amour. Ayez des relations qui, entre vous, soient des relations d'un berger qui donne sa vie pour les brebis. Moi, j'y vois la vocation de Pierre et donc notre vocation de baptiser.
Mais alors, puisqu'il est question de Pierre et de son rôle, après, dans l'Église, on verra. Hein. On peut se dire aujourd'hui, oui, mais alors on a vu aussi que l'exercice de l'autorité, elle peut être mal vécue. On en parle aujourd'hui avec la crise que traverse l'Église. Paître les brebis, justement. Juste, qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui ?
Là, il faudrait revenir à l'une des premières prises de parole, en tout cas que j'ai en tête, du pape François quand il a été choisi. Il a dit, il faut absolument que le berger ait l'odeur du troupeau. Et qu'il marche parfois en tête pour montrer le chemin, parfois derrière pour s'occuper de ceux qui traînent, prendre soin des agneaux, c'est-à-dire des plus fragiles dans le troupeau, et parfois au milieu, parce qu'il est avec les autres, qui porte sur lui l'odeur du troupeau. Donc c'est ça, être, pour moi, être dans l'amour, dans une relation pastorale, enfin entre nous, faire peuple de Dieu dans la visée de Jésus, qui était celle d'un amour d'amitié. Vous voyez qu'on... Je vous appelle mes amis, vous devez être amis les uns les autres, quoi, en vous aimant les uns les autres.
Et celui qui porte la responsabilité dans l'Église vit la même chose, au milieu des autres.
Et moi, je pense que, d'une certaine manière, on a une part de papauté à l'intérieur de nous-mêmes, parce que cette vocation de Pierre, dans ce texte, c'est une vocation baptismale. C'est pas au pape à être devant, derrière, au milieu. Il est devant, derrière, au milieu, parce que nous, chacun de nous, nous devons être devant, derrière, au milieu.
Merci à vous. Arnaud Alibert, ce texte très riche, on pourra le relire, hein, c'est dans Jean, chapitre 21, versets 1 à 19. Merci à Xavier François à la technique.